Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Étienne Brack.
Et c'est reparti pour BFM Bourse, on est ensemble en direct jusqu'à 18h. Dans un instant, c'est le club qui va s'ouvrir avec une séance positive à la Bourse de Paris. Aude Kersulek, notre fil rouge depuis Euronext, avec Aude, un CAC 40 qui est bien parti pour enchaîner ce soir une cinquième séance dans le vert.
Ouais, c'est vrai, ça se passe drôlement bien depuis ce début de semaine, même si les volumes ne sont pas forcément en rendez-vous. Là, tenez, là, on est encore au-dessous du milliard d'euros d'échanges sur le CAC 40. En tout cas, c'est l'achat qui prédomine dans les échanges. On monte de 0,6% en ce moment, 8186 points. Donc, on n'est plus maintenant qu'à moins de 70 points du plus haut historique du CAC 40, alors que le CAC 40 dividende réinvesti continue d'être sur des plus hauts, 25 119 points. Maintenant. Et puis à l'intérieur du CAC 40, ça se passe plutôt bien aussi pour un bon nombre de secteurs. Carrefour est en hausse, mais l'automobile rebondit aussi aujourd'hui. Stellantis et même Renault, Total Energy ou encore L'Oréal. Donc plutôt une belle journée sur les marchés. Et même Wall Street s'est repris. On avait ouvert un peu mitigé. Maintenant, on a les trois indices qui sont assez largement dans le vert.
Avec de nombreux records aujourd'hui en Europe, pour le DAX à Francfort, pour le CAC 40 dividende réinvesti, pour la bourse d'Amsterdam, faut-il revenir sur les marchés si on a loupé le train ou est-ce qu'il faut être patient? Question que je vais poser dans un instant à nos invités. Et puis à partir de 17h30, on refera la séance pour revenir sur les valeurs qui ont fait l'actualité ces dernières heures, avec notamment Alstom hier qui a publié ses résultats avec une importante opération de refinancement. Et puis tiens, BE Semiconductor qui s'envole aujourd'hui de plus de 3% après avoir emporté une grosse commande, un appel d'offres conséquent. Suite à cela, le titre se distingue très clairement aujourd'hui, alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, le secteur des semi-conducteurs est sous pression après la publication d'ARM. C'est parti, c'est BFM Bourse. Dans un instant, c'est le club qui s'ouvre.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Le club de la bourse, comme tous les soirs, avec deux invités, Sébastien Corchia. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Étienne.
Directeur général, directeur des investissements de Cogefi Gestion. Et puis j'ai le plaisir également d'accueillir Vincent Juvins. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Étienne.
Stratégiste macro global chez JP Morgan Asset Management. On a quasiment une demi-heure pour regarder un petit peu la situation économique, la situation macroéconomique, la situation des marchés. Vincent Juvins, je le disais en préambule, qui sont en pleine forme. Des records historiques pour les grands indices européens. Du côté de Wall Street, les indices ne sont pas en reste non plus puisqu'ils sont quasiment sur des plus hauts. Bon, tout va bien actuellement, malgré de nombreuses incertitudes, le marché est quand même hyper résilient.
Oui, c'est clair. Bon, maintenant, les données macroéconomiques publiées cette semaine étaient plutôt encourageantes. J'en veux pour preuve les ventes au détail en Europe, les exportations chinoises. Ce sont autant d'éléments, évidemment, qui donnent quelque part un petit peu d'allant au marché. Les banques centrales, qui en tout cas en Europe, ouvrent clairement la porte, comme la Banque centrale d'Angleterre aujourd'hui, à des baisses de taux dans le courant de l'été. Ce sont autant de facteurs, évidemment, qui sont de nature à rassurer les investisseurs. Aux États-Unis, évidemment, on a eu une croissance plus faible qu'attendue et une inflation, je dirais, qui baisse moins rapidement. Donc c'est vrai que là, les perspectives monétaires sont un petit peu moins favorables aux États-Unis. Et c'est vrai que l'Europe commence un petit peu à se démarquer à ce niveau-là. On le voit encore aujourd'hui dans les chiffres du CAC 40. Maintenant, ne nous trompons pas, au cours des mois à venir, il faudra absolument que les bénéfices soient au rendez-vous. Ils l'ont été trop peu, sans doute, en Europe au premier trimestre, davantage présents aux États-Unis. On a quand même des marchés qui, dans tous les cas, sont à leur prix, voire légèrement au-delà du prix, si je regarde les valorisations exprimées en ratio cours-bénéfice. Il faudra réellement que les bénéfices soient au rendez-vous pour les emmener plus haut, ces marchés. Donc, attention, on est, malgré ce contexte positif qu'on observe encore aujourd'hui, on est dans un contexte où des prises de bénéfices ne sont pas à exclure à un moment ou l'autre, si déception il devait y avoir. Donc, chez JP Morgan Asset Management, c'est vrai qu'on investit, on reste investi sur les marchés d'actions, mais on essaye d'avoir en tout cas un type un peu plus défensif, notamment en privilégiant des stratégies plus dividendes, plus revenus, qui nous permettent soit d'augmenter le rendement qu'on a sur les marchés financiers et la performance qu'on a, soit potentiellement d'amortir des baisses, si baisses il y a, et encore une fois, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui, loin de là, cinquième séance dans le vert. Alors, vous avez énuméré beaucoup de choses, mais quand même, faisons un petit focus sur les banques centrales. Hier, c'était la Banque centrale de Suède qui a annoncé baisser ses taux. Aujourd'hui, c'est la Banque d'Angleterre qui ouvre la voie à des baisses de taux. Bon, contrairement aux États-Unis, on en reparlera dans un second temps. Mais là, ça y est, l'inflation reflue en Europe. La BCE devrait baisser ses taux cet été, dès le mois de juin. Là, la situation, elle est claire en Europe.
Jusqu'ici, oui. Alors, sur l'inflation, je pense qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Hein. On a quand même passé par, en tout cas, une période relativement particulière à cet égard. Je pense qu'en effet, l'inflation devrait continuer sa trajectoire baissière et ce qui devrait ouvrir la porte, évidemment, pour que la BCE puisse baisser les taux dès le mois de juin. Ça reste notre scénario. 3 baisses de taux au niveau de la Banque Centrale Européenne d'ici la fin de l'année. Elle suivrait en cela la Banque de Suède, mais également la Banque Nationale Suisse. Donc, clairement, en Europe, il y a déjà, finalement, un mécanisme qui s'est enclenché vers l'aide des baisses de taux. Et on sait qu'historiquement, c'est bénéfique à la fois pour l'économie, mais également pour les marchés financiers. Et ce, d'autant plus en Europe qu'aux États-Unis, puisque finalement le taux directeur de la Fed, il n'est indicateur que pour les marchés financiers. Les entreprises se financent largement sur les marchés financiers à des coûts qui sont parfois largement inférieurs à ce que peut proposer la Fed. Les conditions de financement sont très favorables aux États-Unis, tandis qu'en Europe, les entreprises se financent encore pour à peu près 70% de leurs besoins de financement auprès du système bancaire. Et là, le taux de refinancement et le taux de dépôt de la BCE, évidemment, a davantage d'impact sur les conditions de financement des ménages, des entreprises. Donc, l'assouplissement à venir sera doublement bénéfique, évidemment. Ça a été plus pénalisant en Europe, mais ce sera évidemment un boost supérieur à ce qu'on peut espérer aux États-Unis.
Sébastien Corchia, COGEF Gestion, c'est vrai que ces derniers temps, le marché est hyper dépendant à ces baisses de taux. Hein. C'est le thème de l'année, avec des anticipations aux États-Unis qui bougent tout le temps, un consensus qui a du mal à se former, et puis à chaque fois, l'obligataire qui va, qui vient, et puis le marché action qui évolue au fil du 10 ans américain.
Oui, aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir un point de vue aussi bien pour les banques centrales que pour les marchés parce que forcément le cycle est différent et on ne garde pas forcément la même chose. C'est-à-dire qu'en Europe, les jeux sont assez faits. On sait qu'il va y avoir une baisse des taux. Après, je serais peut-être moins catégorique sur le fait qu'il y en ait d'autres parce que les suivantes dépendront aussi de ce que fera ou ne fera pas la Banque Centrale américaine. En tout cas, ça pourrait être plus compliqué d'en faire une deuxième tout seul et encore plus une troisième. Mais aux États-Unis, le sujet qui se pose à la Fed, ils sont assez clairs. C'est moins le sujet de l'inflation. Ça l'est quand même. Hein. C'est moins le sujet de l'inflation. Ça commence à être le sujet de la croissance parce qu'on a eu quand même quelques statistiques un peu décevantes. Vincent le rappelait en filigrane. Un petit peu décevantes sur la croissance américaine. Je vous rappelle qu'on a eu un ISM des services qui est passé négatif en dessous de 50, en tout cas. Et ça se passe à des moments où, généralement, il y a une dégradation assez forte de l'économie qui arrive. On a des chiffres de l'emploi qui sont bons, mais un peu moins bons. Et je vous rappelle qu'on a un consommateur américain qui consomme beaucoup, trop probablement, à crédit et qui le fait parce qu'il est très confiant dans son emploi et sa capacité de changer d'emploi et d'avoir des hausses de salaire. Et ça devient de plus en plus dur de changer d'emploi et les hausses de salaire, ça va se calmer. Donc la Fed, elle a un regard aussi sur la croissance. Il lui faut, je dirais, elle est rentrée dans une deuxième phase là où les marchés sont restés un peu que sur les chiffres du CPI. Donc les anticipations sont un peu doubles aux États-Unis alors qu'elles sont plus sur l'inflation, je dirais, en Europe, parce qu'on n'a pas trop de sujets de croissance. Au contraire, il faut la relancer.
Ah bah non, là-dessus, c'est vrai que c'est compliqué avec une croissance à tonnes en Europe, alors qu'aux États-Unis, la croissance, elle surprend positivement à chaque fois, même si elle ralentit. On l'a vu au premier trimestre, Vincent Juvins. Mais dans le même temps, les entreprises continuent d'afficher des profits au-delà des attentes aux États-Unis. Hein, 85% des sociétés ont dévoilé des résultats supérieurs aux attentes dans le S&P 500, avec notamment, des réductions de coûts qui sont toujours là, puis des entreprises qui sont très internationales.
Oui, alors aux États-Unis, je pense que comme Sébastien l'a justement rappelé, finalement c'est le consommateur qui est d'un point de vue économique la clé évidemment de la pérennité de la croissance économique. Si le consommateur va, tout va, ça c'est un aspect. Sur les marchés, il y a certainement évidemment un contexte international qui peut être favorable pour certains pans de l'industrie américaine. Je pense notamment à tout ce qui est secteur pétrolier, hein, qui aujourd'hui aux États-Unis, on en parle trop rarement, mais enfin bénéficie de ces prix élevés du pétrole, bénéficie des exportations gazières vers l'Europe notamment. Les États-Unis connaissent un boom de production pétrolière qui est tout à fait inouïe puisque c'est aujourd'hui le premier producteur de pétrole mondial et c'est évidemment quelque chose qui à la fois contribue évidemment à la réalisation des bénéfices aux États-Unis mais également à l'activité économique de manière plus large. Alors Wall Street s'en tire également peut-être pas tellement par son exposition internationale mais surtout évidemment par le fait qu'elle est relativement plus exposée au secteur technologique, secteur technologique qu'on attendait au tournant en ce début d'année et qui a dans l'ensemble relativement bien fonctionné et délivré sur des attentes qui étaient élevées en termes de croissance bénéficiaire. Donc c'est un secteur, je dis souvent, qui est pricé pour la perfection, mais qui jusqu'ici continue, trimestre après trimestre, à apporter cette perfection sous forme de bénéfices qui sont tout à fait significatifs. Et cerise sur le gâteau, on observe que les groupes technologiques, en plus de réaliser des bénéfices importants, investissent à la fois dans le futur, dans tout ce qui est intelligence artificielle, rachètent leurs actions, ce qui est évidemment bénéfique pour les actionnaires, et commencent aujourd'hui même à octroyer des dividendes, chose évidemment auxquelles on n'était pas habitué. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pas mal de valeurs de la tech sont devenues presque des valeurs défensives dans pas mal de portefeuilles et plus des valeurs de croissance comme on les percevait en tout cas auparavant. Et ça, c'est la réelle force de Wall Street aujourd'hui. C'est réellement ce secteur technologique et communication services qui continue à soutenir en tout cas la création de bénéfices aux États-Unis.
Et dans 15 jours, Nvidia publiera ses résultats trimestriels. Ce sera bien sûr un rendez-vous majeur. Juste avant, je veux quand même revenir sur un élément que vous avez mentionné. Le consommateur américain. Hier, on était avec Vincent Chéniaud de Generali qui nous disait l'épargne Covid, ça y est, elle a été cramée, elle a été dépensée. Ça vous inquiète, ça, quand même? Parce que c'était quand même un moteur de performance. Enfin, en tout cas, ça rassurait quand même pas mal d'économistes dans le sens où ça montrait qu'il y en avait encore sous le pied. Là, aujourd'hui, il n'y a plus d'épargne Covid et les taux de carte de crédit sont à 20-25%.
Alors oui, c'est certainement un facteur positif en moins. Maintenant, et comme l'a souligné Sébastien, les Américains continuent à dépenser. Les Américains sont fantastiques à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas sur des choses qu'ils n'ont pas besoin. Donc là maintenant, ils bénéficient finalement, ils ont peut-être plus d'épargne Covid, mais ils ont des cartes de crédit. Alors certes, à des taux prohibitifs, mais on voit que l'utilisation de ces dernières est en hausse. La clé, c'est évidemment le marché de l'emploi. Je dirais ceci est soutenable tant que les perspectives en termes d'emploi demeurent favorables. Et c'est vrai qu'on a eu quelque part un rebalancing qui s'est opéré en termes de rapport de force entre employés et employeurs, c'est-à-dire qu'il était à l'avantage des employés jusqu'il y a peu. Les employés pouvaient quitter leur emploi, ce phénomène de grande démission, sans trop de soucis, avec l'assurance de retrouver un job derrière. Aujourd'hui, on voit que les créations d'emplois, les ouvertures de postes, ce fameux rapport JOLTS, montrent qu'il y a moins d'ouvertures d'emploi, que les Américains sont moins prompts à quitter leur emploi, et on voit derrière, les salaires croissent moins vite. Alors, on n'est pas encore dans un marché du travail qui pose problème pour la consommation, mais enfin, on est quand même dans un marché du travail qui est moins supportif. Donc, tôt ou tard, c'est une variable qu'il faudra évidemment analyser plus loin, qui pourrait être un risque. On n'en est pas là. Aujourd'hui, les Américains ont un emploi, ils ont une capacité de s'endetter pour ceux qui n'ont plus d'épargne Covid, et ceux qui en ont encore, continueront évidemment à le faire.
Sébastien Corchia. Pas mal de choses intéressantes sur cette épargne Covid, puis ça sur l'emploi qui tient.
Oui, pas mal de choses. Et en fait, il faut regarder un petit peu les bruits blancs. Vincent rappelait effectivement cette capacité qu'ont les Américains à dépenser des sommes pharaoniques pour des choses dont ils n'ont pas forcément tout le temps besoin, mais parfois aussi un peu. Je pense notamment au tourisme. Vous avez aujourd'hui les résultats de Airbnb qui ne sont pas très bons. Et ce n'est pas la première fois que dans le monde du tourisme, aux États-Unis notamment, les publications sont décevantes. Et vous savez que s'il y a une chose qu'on peut couper en premier, c'est effectivement cette dépense dite de loisirs. On l'a vu aussi sur des parcs d'attractions, sur des activités proches des casinos, etc. Donc on sent quand même que le consommateur américain est un tout petit peu moins à l'aise qu'il ne l'était il y a quelques mois. On sait aussi que le taux de défaillance sur le paiement des loyers augmente, que le taux de défaillance sur le paiement des dépenses de cartes de crédit, en fait tout ce qui est fait à crédit à court terme augmente, tout ça avec des taux qui sont élevés. C'est ça que la Fed regarde quand même. Et le sujet qui n'en est pas un aujourd'hui, mais qui pourrait en être un, il vaut mieux pas, mais qui pourrait en être un pour les marchés, c'est si on avait toujours un peu d'inflation aux États-Unis, ce que l'on voit quand même, ce dernier kilomètre d'inflation, il est difficile à réduire, et qu'on avait un peu brutalement un ralentissement lié aux consommateurs américains et lié finalement au chômage, parce que là, on verrait réapparaître, on l'a vu clignoter deux, trois fois, mais on verrait réapparaître le mode stagflation. Le mode stagflation, là, c'est le pire ennemi pour Wall Street, parce que vous pouvez pas baisser les taux, et vous avez besoin de les baisser, en fait, puisqu'il y a un ralentissement à croissance. On n'y est pas, mais il y a des petits clignotants de ci, de là, qui peuvent se rééteindre, mais qui s'allument. La situation en Europe n'est pas du tout la même, bien naturellement, même si elle n'est pas confortable, mais pas sur la même chose.
Mais c'est des clignotants, c'est du rouge ou c'est du orange?
Non, ce sont des petits clignotants que vous voyez à travers des publications de résultats, et encore une fois, si vous avez une dégradation des chiffres de l'emploi, qui sont les chiffres que la Fed va plus regarder que les chiffres de l'inflation du type CPI, naturellement, ça va, comment dire, changer. On revient à votre première interrogation et question. Peut-être les anticipations de taux. N'oubliez pas que si la Chine repart aussi, hein, la Chine, le PPI en Chine, c'est un peu le CPI aux États-Unis. Quand la Chine repart, si elle repart, elle peut réexporter de l'inflation aussi. Donc, la situation est complexe, alors que finalement, les marchés la lisent de manière extrêmement simple et forcément dans la meilleure des façons.
Sébastien Corchi à Cogefi Gestion, Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management, vous restez avec nous. On est encore ensemble pendant un quart d'heure dans ce club, mais juste avant, je vous donne la tendance, parce que dans un peu moins de 20 minutes, ce sera le fixing à la Bourse de Paris. Et très belle séance qui est en cours pour le CAC 40, qui gagne 0,68%, 8186 points, record pour le DAX à Francfort qui gagne plus d'1%, l'Eurostock 50 de son côté prend 0,3%. Du côté de Wall Street, ça va mieux, puisque vous avez un Nasdaq qui gagne désormais 0,2%, le Dow Jones plus 0,5%. Et puis vous parliez il y a un instant de Airbnb qui perd du terrain à Wall Street, ça ne profite pas à Accor qui est de loin la plus forte baisse du CAC 40, moins 2,7% à 40,35€, le tout dans des volumes très faibles. Hein. C'est Aude Kersulet qui sera avec nous dans un instant, qui nous confirmera tout cela. Mais c'est vrai qu'en ce pont du mois de mai, les carnets d'ordre sont assez vides. Le club donc avec Sébastien Corchia, directeur général, directeur des investissements de Cogefi Gestion, et Vincent Juvin, stratégiste macro-global chez JP Morgan Asset Management. Par rapport aux élections européennes, Vincent Juvin, alors vous êtes installé à Bruxelles, en Belgique, hein, donc vous êtes au cœur de la Commission. C'est vrai que c'est pas vraiment un sujet pour les marchés. Hein. C'est vrai que, bon, comme on le disait il y a un instant, ils sont focalisés sur les baisses de taux aux États-Unis. Mais alors, la politique, que ce soit aux États-Unis avec les élections américaines, qui sont quand même hyper importantes, et dans une moindre mesure les élections en Europe, pour l'instant, c'est pas un sujet.
C'est vrai, et pourtant, c'est quelque chose qui est éminemment important. Mais je dirais qu'heureusement, en Europe, évidemment, le résultat de ces élections sera dilué dans le Parlement européen, d'une part, et dilué dans le temps, dans un second temps. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'impact immédiat sur notre environnement économique et sur l'environnement de marché du résultat de ces élections. À moins qu'on ait vraiment quelque chose qui soit un scénario tout à fait disruptif. Mais aujourd'hui, très clairement, les sondages nous montrent qu'on a une très forte progression de la droite, voire de l'extrême droite, au détriment des Verts qui payent quelque part la crise énergétique qu'on a pu traverser ces dernières années dans un certain nombre de pays. Donc, grosso modo, c'est vraiment les deux grandes tendances. Mais donc, ça veut dire que pour ce qui fait le soutien de l'Europe aujourd'hui, on voit par exemple les excellents chiffres de croissance de l'Italie aujourd'hui qui sont notamment drivés par la mise en place de ce plan de relance Next Generation EU Fund qui a pour objectif de favoriser la transition énergétique et autres. Ceci va continuer, ceci est budgété jusqu'en 2027, hein, fait partie évidemment d'un cadre plus large qu'est le Green Deal. Donc on va avoir à court terme, peu importe le résultat de cette élection, on va continuer à avancer sur ce genre de programme d'investissement et ça bénéficiera à la croissance. Après 2027, lorsqu'il faudra réaliser un nouveau budget pour l'Union européenne, je suis pas sûr que ce budget aura encore, compte tenu en tout cas des directions que pourrait prendre le Parlement européen, sera encore aussi vert et peut-être, et on a parlé dans les sujets précédents, qu'il y aura davantage de capitaux qui seront alloués à des choses comme la défense par exemple, comme la sécurité, et ce sont en tout cas des conséquences probables. Donc pas d'impact immédiat, mais quand même à moyen long terme, ce qui va se passer au mois de juin aura quand même une incidence sur la ligne directrice de l'Union européenne et sur les grands choix de société qui seront faits à terme, notamment sur la transition énergétique. Je pense que c'est un des sujets principaux.
Il y aura quelques minutes, dans un instant on parlera bien sûr de votre data room, mais juste avant quand même un mot sur l'élection américaine, parce que c'est vrai que c'est un feuilleton quand même, hein, même ce qui se passe avec Donald Trump, hein, qui est régulièrement devant les barreaux de la justice. Là c'est pareil en fait, alors qu'on est quand même sur le marché majeur, sur les États-Unis, avec des éléments très importants dans les relations géopolitiques, sur les plans de relance à venir, etc. Et pour l'instant, ça n'intéresse pas Wall Street.
Non, je dois dire que en ce qui nous concerne, c'est pas un sujet dans la gestion quotidienne de nos fonds diversifiés ou même de nos fonds d'actions américaines. Bon, historiquement, le résultat de l'élection a rarement été réellement disruptif pour les marchés ou significatif en termes d'incidence. C'est vrai qu'on a d'Europe, on est un peu face à deux candidats qui sont fondamentalement différents. Mais enfin, sur les grands enjeux de la prochaine présidence américaine, il y a quand même un certain nombre de similitudes. Je pense que l'un et l'autre sont des tenants de la ligne dure vis-à-vis de Pékin. Ça ne changera pas, évidemment. L'un et l'autre vont hériter un déficit budgétaire et un endettement abyssal qu'il faudra corriger au cours des prochaines années. Donc je pense que les marchés se réalisent. Il y a quand même un certain nombre de points sur les points de convergence entre les deux candidats. In fine, ce qui est important pour les marchés, c'est en tout cas l'état du consommateur américain d'un point de vue économique et la capacité de Wall Street à continuer à se réinventer. Et là, il n'y a aucun des deux candidats qui a émis l'idée de réguler durement le secteur de la technologie américaine. Donc j'ai envie de dire pour Wall Street, tant qu'on laisse un petit peu Wall Street opérer relativement librement, c'est l'essentiel.
Sébastien Corchia, par rapport à ces scrutins majeurs quand même à venir, surtout aux États-Unis.
Aux États-Unis, le marché est finalement où les candidats sont contraints, probablement ils le seront par les marchés demain. C'est-à-dire que en fait, c'est le sujet de la dette. Hein. C'est-à-dire que plus personne ne sera en capacité aux États-Unis de promettre quoi que ce soit avec des déficits, avec des chèques qui seront envoyés par la poste, parce que pour le coup, les caisses sont vides. Donc de toute façon, je pense que l'un ou l'autre, Vincent le disait, ça change. Pas grand-chose. Un petit mot sur l'Europe. Si effectivement ces élections n'ont pas de capacité à changer beaucoup, elles peuvent avoir un petit effet sur l'euro. S'il y avait trop de partisans finalement de l'extrême droite et finalement anti-Europe, ce ne serait pas bon pour l'euro. Si l'euro est un peu trop faible, ça empêchera naturellement la BCE de baisser trop ses taux. Encore une fois, il peut y avoir un petit lien entre tout ça.
C'est des éléments à avoir en tête. 17h23, tout de suite, c'est la Data Room. Vous avez l'habitude, comme tous les soirs, juste avant la clôture, nos deux invités apportent des éléments pour vous, auditeurs, téléspectateurs, qu'il faut avoir en tête. On va commencer avec vous, Vincent. Quelle est la data que vous avez choisi de dévoiler à l'antenne?
Alors, 4, c'est un peu le chiffre magique actuellement. C'est finalement un taux que les épargnants aiment bien avoir sur le rendement de leur épargne. Là, on sait que le cash a été très populaire en Europe. 4, c'est pourtant le rendement du dividende complété du rendement des rachats d'actions propres des entreprises en Europe. Alors c'est vrai que moi je suis souvent confronté à cette question, quelles sont vos perspectives pour le CAC 40, pour les marchés boursiers européens, pour les marchés boursiers dans l'ensemble au cours des prochains mois? Et réellement, objectivement, compte tenu des valorisations qu'on a, compte tenu de toutes les interrogations qu'on a évoquées sur ce plateau durant ces quelques premières minutes, c'est difficile de dire qu'on veut voir le CAC faire plus 5, plus 10. Par contre, ce que je peux vous dire avec certitude aujourd'hui, c'est pour ceux qui ont un peu des tentations de vendre leur portefeuille d'actions, de se remettre en cash pour l'été, qu'il vaut mieux rester investi dans des actions à haut dividende, parce que ça va vous donner au moins autant que le cash, et vous allez en plus avoir cette option de meilleur rendement d'actions dans la foulée.
Merci beaucoup. Vincent Juvin, ce qui nous accompagnait ce soir, JP Morgan Asset Management. Sébastien Corchia, quelle est votre data ce soir?
Et moi, c'est 33%. Alors, pour comprendre ce chiffre, je vais d'abord vous poser une question. Étienne, vous savez, combien y a-t-il de minutes dans une séance à Wall Street, d'après vous?
Ça dure de 15h à 15h30. Allez, 22h. Allez, ça fait.
Allez, je vais vous aider.
Ça fait 6h30, je sais pas.
C'est vrai, vous y êtes. 390 minutes. Et en fait, les statistiques nous montrent désormais que les 10 dernières minutes de ces 390 minutes concentrent sur le S&P 500 33% des volumes. 33% de la séance à Wall Street se fait dans les 10 dernières minutes. Alors, c'était un chiffre qui était déjà élevé, hein, qui était de 27%. Les chiffres que je vous donne ont été repris, en fait, la semaine dernière par Bloomberg, qui a repris une étude faite par un spécialiste du trading algorithmique, parce que, naturellement, c'est extrêmement important, et qui nous montre qu'en 4 ans, on est passé de 27 à 33%. C'est pas quelque chose qui est propre aux États-Unis. On a la même tendance en Europe, où sur les 10 dernières minutes en Europe, on est passé de 23 à 28% du volume qui s'y concentre.
Mais ça veut dire quoi?
Alors ça veut dire que en fait, on a la conséquence d'une montée en puissance de deux facteurs, mais qui sont intimement liés, donc presque un seul. C'est celui de la gestion passive des ETF, quelque part, tech et d'un deuxième aussi qui est plus nouveau, plus récent aux États-Unis, celui des options, 0D options, des options à un jour. Et tout ce petit monde-là, avec une certaine mécanique, doit déboucler ses positions, les flux entrants, les flux sortants, les calls, les puts, etc. à la fin de la séance. Et les volumes sont tellement gigantesques, on est à 12 000 milliards d'ETF aux États-Unis, les volumes d'options 0D sont, c'est 50% des options aujourd'hui aux États-Unis, que tout doit se déboucler à la fin. Alors, ça pose un problème, naturellement. Ça pose un problème d'abord, et vous le voyez ce problème, parce que vous voyez de plus en plus la séance américaine accélérer dans un sens ou dans un autre à la fin de la séance. Eh bien, ce sont tous ces flux qui arrivent là, qui trouvent cette liquidité. Tout le monde se donne rendez-vous. La question est, c'est celui de l'efficience du prix, finalement, du prix des actions. À quoi servent les 380 autres minutes, naturellement, dans un monde qui est lui-même hyper concentré? Les fameuses 7 magnifiques, par exemple. Donc, vous voyez que efficience du prix, c'est une question, naturellement. Reflet de la réalité économique, ça, c'est celui de la concentration. Est-ce que la bourse en est le reflet? Eh bien, c'est des statistiques qui font quand même un petit peu froid dans le dos, parce que, naturellement, ça amène toutes ces idées un peu, éventuellement, de flash crack, de choses comme ça, en quelques minutes, à la fin d'une séance.
Et ça sera encore le cas ce soir, hein, puisqu'il y a un milliard, là, à l'instant, négocié dans le CAC 40, et dans 10 minutes, ça sera probablement le double, on verra cela avec Aude Kersulec. Aude qui nous attend d'ailleurs. Élément intéressant à suivre dans cette séance, dans les dernières secondes de cotation.
Eh oui, c'est quand même qu'on a des records. On a pas mal de records aujourd'hui sur nos indices européens. On a d'abord le DAX à Francfort, alors qui va aujourd'hui connaître un double record. Déjà, le record en séance, puisqu'on est à 18 699 points pour le DAX à Francfort. Et on va battre le record de clôture, hein, la précédente clôture qui était à 18 567. Voilà, donc un double record ce soir à signaler. Et puis aussi du côté de la banque de l'indice de Londres, grâce à la décision de la Banque d'Angleterre, le FTSE 100 a lui aussi franchi un plus haut historique à 8986 points. Donc là aussi, on fêtera ce soir ça à la clôture. Le Stoxx 600 est lui aussi au plus haut d'ailleurs. Alors du côté de Paris, le CAC 40 dividende réinvesti est lui aussi sur un record, hein, 25116 points en ce moment. Le CAC 40 normal, hein, c'est lui qu'on suit tous les jours, eh bien lui, il est à 68 points de son plus haut historique atteint en mars dernier. Et du côté des valeurs, on en a aussi une aujourd'hui qui est au plus haut, c'est Thales, hein, qui avance de 1,6% et qui a franchi aujourd'hui les 169 euros.
Merci beaucoup, Aude. Aude Kersulec, on vous retrouve dans 5 minutes précisément pour le fixing à la Bourse de Paris. Juste avant, on continue le club sur BFM Business avec Sébastien Corchia, Vincent Juvin. Sébastien Corchia, directeur des investissements de Cogefi Gestion. C'est vrai que le secteur bancaire se porte très bien. Et puis alors là, il y a des news, hein, concernant la consolidation en vue en Espagne, avec notamment BBVA qui lance une OPA hostile. On voit le gouvernement espagnol qui n'est pas du tout d'accord, hein, qui ne veut pas cette concentration.
Oui, qui veut pas, parce que vous savez, les gouvernements ont beaucoup changé en fait d'opinion depuis les précédentes crises, hein, financières. On avait plutôt des too big to fail. Il fallait plutôt grossir pour éviter de tomber. C'est un signe de solidité. On a vu aussi que quand les banques tombaient, les gouvernements avaient plus les capacités forcément soit ils avaient des capacités de soutenir, mais c'était trop systémique. Et puis on sait aussi que c'est destructeur d'emplois, naturellement. C'est ce que mettent en avant les syndicats. Car, donc, pour l'instant, il y a une opposition. La question qu'on peut se poser, alors c'est un sujet qui est très propre à l'Espagne, hein. Vous avez un leader Santander, vous avez déjà eu une opération il y a quelques années entre CaixaBank et Bankia. BBVA cache pas sa volonté d'être dans les plus grosses capitalisations bancaires en Europe. Donc, il manquait peut-être cette brique de consolidation en Espagne. On verra si elle se fait. Maintenant, est-ce que ça peut s'étendre, c'est un mouvement qui peut s'étendre à toute l'Europe? Je le pense pas, parce que je pense que c'est très propre à l'Espagne. Mais c'est intéressant de voir, par contre, que l'Eurostoxx Bank a beaucoup progressé depuis le début d'année, une vingtaine de pourcents. Un peu moins pour le Stoxx, c'est-à-dire la partie Europe hors zone euro, plutôt 18%, 18-23%. En tout cas, c'est bien au-dessus de ce qu'ont fait les indices comme l'Eurostoxx. Alors la question, c'est plutôt de se dire, mais qu'est-ce qui a poussé les investisseurs à aller vers les banques, alors que vous savez que depuis longtemps, personne n'en voulait, pour des raisons d'abord de poids dans les indices, c'était marginal, de lecture, à chaque fois c'était compliqué de lire les résultats des banques.
Ça l'est toujours.
Ça l'est toujours, et en tout cas elles avaient des attraits qui n'étaient pas suffisants, à l'instar des télécoms par exemple. C'est pas cher, il y a du rendement, mais les marchés n'en voulaient pas. Alors la question c'est pourquoi ils en veulent depuis quelques mois. C'est peut-être lié d'abord à un arbitrage en provenance de la croissance, hein, c'est cette fameuse courbe en K, c'est-à-dire que tout le monde est allé sur la croissance, les technologies notamment, puis tout le monde a ignoré le reste jusqu'à un moment où cette mâchoire, ce K, il est tellement extrême qu'on commence à regarder la value. Sauf qu'en fait, les investisseurs l'ont regardé par un prisme un peu différent. Ils l'ont regardé par le prisme du pétrole, qui était très facile à regarder. Il y avait du rendement, c'était pas cher, et il y avait de l'actualité qui justifiait la hausse des cours du pétrole. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, avec moins de tension à court terme, en tout cas, et pour les marchés géopolitiques et sur les cours du pétrole, et de se dire que la value est extrêmement attractive. Et dans la value, ils sont allés faire un tour, ces investisseurs, dans l'automobile, notamment. Ils sont allés faire un tour dans l'automobile qui était pas cher et avec des perspectives assez attrayantes de, notamment, cette transition énergétique pour l'automobile vers l'électrification. Et l'électrification, c'est un chemin qui est long, probablement positif, mais qui est loin d'être linéaire, comme nous le montrent les publications de Stellantis dernièrement. Et c'est des titres qui ont perdu 30%, je pense à Stellantis, par exemple, où les publications que vous avez eues il y a quelques jours des valeurs allemandes montrent que c'est pas simple. Non. Et donc, qu'est-ce qui, dans le monde de la value, il n'y a pas grand-chose. Il y a les cycliques industrielles. Elles commencent à retrouver de l'intérêt, avec notamment le redémarrage de la Chine. On le voit sur les valeurs chimiques, notamment les valeurs sidérurgiques cotées en Allemagne. Mais qu'est-ce qui est peut-être dans ce monde de la value où les gens ont envie de retourner, peut-être finalement le plus sécurisant, eh bien les banques, parce que les banques, les taux à zéro qui étaient, ou négatifs, qui étaient très pénalisants pour les banques, c'est vraiment derrière nous. Donc aujourd'hui, elles sont sur des marges, même si la conjoncture économique n'est pas là, mais elles sont sur des marges. Finalement, il n'y a pas eu de récession massive en Europe, donc pas trop de défauts. Vous avez des secteurs bancaires, je pense notamment en France, hein, vous prenez BNP, vous prenez Société Générale, vous prenez Crédit Agricole, ça se paye deux fois moins cher que le CAC, et ça fait plutôt 7 à 8% de rendement.
Et BNP, par exemple, qui est au-delà des 70 euros, qui est sur des plus hauts de la crise financière, c'est un des mouvements que vous accompagnez aujourd'hui ?
Bah, c'est des mouvements que, si vous revenez encore une fois sur la value, vous pouvez, et que l'automobile vous fait un peu peur et que le pétrole, c'est devenu un petit peu compliqué.
Et puis c'est pas ESG en plus. Alors, il y a plein d'investisseurs.
Puis les matières premières où on a envie d'y revenir, on voit, mais elles sont cotées plutôt à Londres et autres. Bah, finalement, les banques, c'est le bon endroit pour faire de la value, peut-être un petit peu plus tranquillement que par le passé. Donc, ceci explique cela. Est-ce qu'il va y avoir, pour revenir au départ, qui était BBVA, est-ce qu'il va y avoir un mouvement de consolidation ? Probablement qu'il y aura deux, trois banques, mais si vous avez, on peut se dire aussi, hein, aujourd'hui, les banques, notamment françaises, puisque c'est ce qui intéresse les auditeurs, les banques françaises se payent deux fois moins cher que le CAC. Le premier mouvement, c'était cet effet de normalisation des taux d'intérêt, où elles regagnent de l'argent. Le deuxième mouvement pour les banques, qui peut les faire reprogresser encore plus, c'est finalement la croissance. Et c'est la croissance, si elle revient un petit peu en Europe. Si vous regardez les banques italiennes, elles ont beaucoup progressé, hein, beaucoup plus que les banques françaises, notamment, comme le rappelait tout à l'heure Vincent, c'était cette histoire de plan de relance qui donne de la visibilité, qui donne de la croissance à l'économie italienne.
Plus les rachats d'actions, bien sûr, qui portent le cours. Merci beaucoup Sébastien Corchat, nous a accompagné ce soir, directeur général, directeur des investissements de Cogefi Gestion. Et puis merci à Vincent Juvins, qui était également dans ce club stratégiste macro global chez JP Morgan Asset Management. 17h35, c'est le fixing, très courte pause. Et puis dans un instant, on retrouve Aude Kersulek pour la clôture à la Bourse de Paris avec Jean-Louis Cussac. À tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
La clôture à Euronext avec Aude Kersulek qui nous attend. Rebonjour Aude, ça y est, les jeux sont faits, la Bourse de Paris a clôturé. Et comme promis, c'est du vert ce soir avec un CAC 40 qui grappille 0,7%.
Oui, finalement, la même progression qu'hier, 0,69%, 8187 points et cinquième séance de hausse depuis le début de semaine. C'est vrai que ça se passe bien sur les marchés, ça se passe bien d'ailleurs sur les marchés européens. L'euro stock 50 grappille 0,3%. Le DAX à Francfort, donc nouveau record, hein, plus 1%, et nouveau record de clôture, 18 686 points. Et puis l'indice de Londres a lui aussi clôturé un record après que la Banque d'Angleterre ait un peu libéré les marchés. C'est vrai, aujourd'hui, on avait un peu commencé dans le rouge, notamment à Paris. Et puis le fait que la Banque d'Angleterre a dit que c'était encourageant, hein, les derniers chiffres, et qu'elle allait sûrement décélérer sa politique monétaire, peut-être au mois de juin. Et ça nous a un peu donné d'enthousiasme sur les marchés. Et au sein de l'indice parisien, c'est Carrefour qui clôture la plus forte hausse ce soir, plus 2,3%, 16,43€ devant Legrand, ou encore Stellantis qu'on voit ce soir du bon côté du tableau. Stellantis qui perd plus de 20%, je vous le rappelle, depuis un mois, et donc qui récupère 2% ce soir à 20,25€. Total Energy ou encore L'Oréal sont aussi du côté des hausses. La plus forte baisse, c'est Accor, moins 2,4%. Et puis sur le SBF 120, c'est vrai qu'on en a peu parlé, mais la plus forte hausse du jour, c'est CGG qui a annoncé bien avoir recours à son nouveau cloud, un AI cloud, et ça a boosté la valeur aussi parmi les seules, c'est vrai, actualités du jour. Et c'est vrai qu'aussi on en a eu sur le marché espagnol, hein, puisque on avait BBVA qui a fait une nouvelle offre hostile cette fois à Sabadell. BBVA qui perdait plus de 5% sur le marché à Madrid, tandis que Sabadell était la plus forte hausse du jour sur l'IBEX. L'IBEX qui perd lui 0,9%, mais qui va vraiment à contre-tendance des autres indices européens qui sont donc à la hausse. Et le CAC 40, je vous le rappelle, c'est une hausse de 0,7% à 8187 points ce soir, Étienne.
Merci beaucoup, Aude. Aude Kersula qui était notre fil rouge tout au long de cette émission. Et puis un autre fil rouge de cette émission, c'est Jean-Louis Cussac qui était avec nous il y a une heure. Bonjour Jean-Louis, Perceval Finance Conseil. Bon, le volume est anémique, hein, ce soir, hein. 2,1 milliards d'euros négociés dans le CAC 40. Il a certes doublé au fixing, mais les carnets d'ordre étaient quand même assez creux.
Oui, c'est bien plus excessif que ce que l'on voit aux États-Unis pour les volumes, comme l'a expliqué Sébastien tout à l'heure. 1 milliard, 2 milliards 100 au fixing. Les ajustements, en effet, de position face aux options, etc. Tout se concentre là. Et quand vous savez que sur les 1 milliard dans la séance, il y a peut-être entre 60 et 70%, c'est de l'arbitrage futur cash et options, vous dites, mais qui fait quoi? Et donc, la gestion passive, en effet, en ce moment, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Alors, le marché progresse bien quand même, hein. Il est parti à 11h30, plus haut, et il est resté scotché jusqu'à la fin pratiquement. Il a gagné point bas, point haut, 0,95, c'est beaucoup, ça envoie une forte indication. Alors, Carrefour a été ramassé. Quand on dit ramassé, c'est qu'elle est partie un peu basse. Et dans la journée, vous voyez, elle a gagné que 2 et quelques, mais elle a été ramassée dans la journée, ce qui est plutôt une bonne chose. Les marchés sont bien payés. Et maintenant, c'est quoi le prochain catalyseur après les taux? Parce que là, il semblerait qu'il y ait quand même un petit consensus quand même. C'est la reprise économique dans la zone euro, probablement. Tout à l'heure, vous parliez de dividendes. Alors, il reste encore une dizaine de points de dividendes pour le CAC d'ici la fin de l'échéance mai. Et en juin, il y a encore 70 points de dividendes. Donc, vous voyez, 70 comparé à 8100, ça fait du 0,8% à peu près de rendement. Voilà, donc les marchés n'envoient pas de signal de fébrilité, d'inquiétude ou quoi que ce soit. Les investisseurs restent optimistes et l'ensemble des acteurs sereins sur les perspectives. Donc peut-être que, vous voyez, demain on va arriver achat. Alors achat comment? Si le marché baisse vers 8140, un petit retracement, eh bien ça sera peut-être une opportunité d'achat déjà sur un tout petit repli comme on a fait ce matin.
Et donc le CAC 40 qui est à la porte des 8200 points ce soir à la clôture, 8187 points, une hausse de 0,69%. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac qui nous accompagnait aujourd'hui dans BFM Bourse. La clôture donc positive en Europe, idem sur donc l'ensemble des grands marchés européens. Le DAX à Francfort gagne plus d'1%, l'Euro Stock 50 gagne 0,3%. 17h42, tout de suite on refait la séance.
BFM Bourse, on refait la séance.
Deux invités pour refaire la séance pendant quasiment un quart d'heure. Aurélien Auton est avec nous, gérant de portefeuille senior chez Swiss Life Banque Privée par téléphone. Bonjour Aurélien Auton, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à l'appel de BFM Business. Et puis Quentin Waro qui est avec nous en plateau. Bonjour Quentin Waro, gérant chez Eleva Capital. Merci également d'être venu en plateau en ce jeudi 9 mai pour refaire cette séance donc positive avec un secteur aujourd'hui qui a fait l'actualité, Quentin Waro, en Espagne, notamment le secteur bancaire avec BBVA qui perd du terrain, quasiment 5% de baisse ce soir à Madrid, avec une OPA hostile, faut le préciser, sur une autre banque espagnole, Sabadell.
Oui, alors c'est un mouvement, nous on est assez prudents sur les banques en général, c'est un secteur qui a très bien performé depuis deux ans et demi, dans la lignée en fait des hausses de taux initiées par les banques centrales. Donc là, comme on arrive plutôt à la fin de ce mouvement, voire même peut-être à partir du mois de juin, sur une baisse de taux, on est un peu plus prudents sur ce secteur. Après qu'il y ait de la consolidation dans ce secteur, pourquoi pas, surtout dans les banques du sud de l'Europe, il y a beaucoup d'acteurs bancaires, donc peut-être que de la consolidation est nécessaire. Après, on sera assez prudent encore plus sur une OPA qui est hostile, puisqu'effectivement, ça veut dire un processus relativement long, potentiellement une implication du gouvernement aussi à la fin du processus d'OPA, donc effectivement des choses qui peuvent être contrariées. Donc on évitera de s'exposer à ce type d'acteurs.
Donc le secteur bancaire, vous êtes plutôt à l'écart d'une façon globale, générale, en sortant de ce dossier spécifique ?
Tout à fait.
Du côté de Swiss Life Banque Privée, Aurélien Auton, quelle est votre opinion sur le secteur bancaire ? Il y a quelques minutes, on parlait de BNP. C'est vrai qu'il est sur des plus hauts de la crise financière, au-delà des 70 euros. L'Eurostox 50 a pris 40%, l'Eurostox 50 banque, bien sûr, en l'espace d'un an.
Moi, j'ai une vision un peu plus positive des banques. Effectivement, on va rentrer dans une dynamique de baisse de taux qui généralement est défavorable aux banques. Mais ce qu'on a quand même constaté lors de cette période de publication de résultats, c'est qu'il y avait quand même un certain nombre de banques, notamment d'Europe du Sud, en Espagne et en Italie, qui étaient en capacité de continuer à faire progresser leur marge d'intérêt, qui est vraiment l'élément clé dans le secteur. Donc je pense qu'il y a encore un potentiel de gain, surtout si on ajoute quand même des valorisations qui sont encore particulièrement déprimées, parce que beaucoup de banques se traitent avec des décotes de 20 ou 30% par rapport à leur actif net, et pourtant elles vont dans les prochaines semaines détacher des dividendes qui vont de 5 à 10%. Donc sur des niveaux de marché qui sont au-delà des 8000 points sur le CAC, je trouve que c'est un secteur de rendement et des côtés qui me paraît plutôt intéressant, surtout pour les banques d'Europe du Sud qui continuent à faire progresser leur marge d'intérêt.
Et quelles sont vos valeurs préférées dans ce secteur ?
Vous parliez de si on reste en France, nous on continue à apprécier BNP, qui est le modèle le plus diversifié, même s'il a bien rebondi. Et après, si on va en Espagne, il y a le dossier Banco Santander qui nous paraît intéressant. Banco Santander qui a mis en place il y a quelques mois un plan stratégique qui commence à porter ses fruits sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité, et qui pourtant continue à se traiter avec une décote de 30% sur sa valeur comptable. Donc c'est un dossier qu'on apprécie en Espagne.
Voilà donc pour le secteur bancaire. Autre secteur qui a fait l'actualité aujourd'hui, Quentin Waro, c'est le secteur des semi-conducteurs, avec ARM aux États-Unis qui a publié ses résultats. Et puis en Europe, une valeur se distingue très clairement, c'est BE Semi-conducteur, BESI, c'est comme ça, ouais. qui est surnommé dans le secteur en termes de jargon, avec une commande importante qui a été annoncée par le groupe.
Oui, alors c'est une commande qui était, on va dire, pré-annoncée au moment de la publication du résultat du premier trimestre, qui n'était pas encore dans le carnet de commandes. Donc là, ça confirme effectivement qu'il y a bien de la demande. Ce qui est important, c'est que c'est une bonne nouvelle après, on va dire, une série de nouvelles un peu moins positives pour ce secteur, qui est très détenu par les investisseurs. Donc effectivement, les marchés sont très sensibles aux moindres nouvelles et donc sont prêts en fait à prendre des profits si jamais on n'a pas ce qu'on appelle de beat and raise, donc des résultats qui battent les attentes et des compagnies qui viennent relevé leur guidance. Donc on avait déjà décalé les attentes de croissance sur le secteur semi-conducteur pour 2024, qui devait être une année de transition avant une année 2025 de forte reprise. Pour Besi spécifiquement, cette commande en hybrid bonding, donc c'est leur nouvelle technologie de packaging de semi-conducteurs. C'est très important parce que ça confirme que dans la partie logique, il y a bien de la demande pour cette technologie de prochaine génération. Maintenant, ce qui va vraiment être clé pour la suite, c'est d'avoir des commandes pour cette même technologie sur la partie mémoire, qui pour l'instant est encore sur d'anciennes technologies, qui répond à une demande très forte de l'intelligence artificielle. Donc il faut produire rapidement, donc on utilise les technologies existantes, mais qui à terme devra passer sur cette nouvelle technologie parce qu'elle améliore largement l'efficacité des puces. Donc c'est nécessaire à long terme.
Donc vous êtes positif hein, sur cette valeur, c'est à Amsterdam, hein, c'est ça. BE Semiconductor qui gagne donc plus de 3% ce soir à la clôture, au-delà des 130 euros. Autre valeur qui a fait l'actualité, non pas aujourd'hui, mais c'était hier, c'est Alstom hein, qui a gagné plus de 9% à la clôture. Aujourd'hui, il y a quelques prises de bénéfices sur la valeur, puisque vous avez Alstom qui perd un peu plus de 3% à 16,59 €. C'est des niveaux d'achat, 16,59 €. Aurélien Auton sur Alstom.
Moi je reste pour le moment à l'écart du dossier. Il y a deux éléments sur la communication d'Alstom d'hier. Il y a la partie restructuration du bilan qui était quand même un des gros sujets chez Alstom. De ce point de vue-là, on voit quand même que les choses vont dans le bon sens avec un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment une augmentation de capital d'1 milliard d'euros. Donc ça va permettre quand même d'éponger une bonne partie des 3 milliards d'euros de dette qu'Alstom avait à la fin de l'année dernière. Et puis le deuxième élément, la deuxième grille de lecture, c'est sur la partie un peu plus opérationnelle sur lequel à mon avis on manque d'éléments. On sait que au-delà de tous les contrats hein, à marge zéro dont a hérité Alstom de la part de Bombardier, que Alstom a quand même un certain nombre de difficultés d'exécution. On parle notamment de contrats assez importants au Royaume-Uni qui ont du mal à monter en puissance. Donc le temps que moi j'y vois pas plus clair sur ce deuxième aspect-là, sur l'exécution et la baisse de ce risque d'exécution, je préfère effectivement rester à l'écart de ce dossier, qui pourtant a quand même sur le carnet de commandes et sur la visibilité qui est offerte par ce carnet de commandes, des atouts qui sont pourtant pas négligeables.
Quentin Warreau, chez Eleva Capital, vous partagez visiblement le même message de prudence hein, par rapport à Alstom, alors qu'il a certes repris 50% en l'espace de quelques mois, mais par rapport au plus haut historique, c'est toujours très compliqué.
Oui, mais on est vraiment sur des points bas. Alors c'est vrai que je suis assez d'accord avec l'analyse d'Aurélien, d'autant plus que donc nous, on va faire très attention à la qualité des bilans. Et c'est d'autant plus vrai maintenant en phase de coûts de financement élevés, puisque en fait, ça veut dire que voilà, pour vous refinancer, ça coûte beaucoup plus cher, que les marchés sont beaucoup plus sensibles à ce type d'opération. Effectivement, là, on a une augmentation de capital, mais effectivement, si la qualité de l'exécution derrière ne suit pas, on n'est pas à l'abri d'une prochaine augmentation de capital prochainement. Sachant aussi que dans cette opération, on a une partie du financement qui se fait par dette hybride, et ces dettes hybrides sont un peu du financement hors bilan, puisqu'il n'y a qu'une partie qui est comptée dans la dette nette, donc dans les ratios qui sont regardés par les agences de notation de crédit. Mais c'est une dette qu'il faut quand même rembourser, c'est une dette qui coûte cher. Donc c'est aussi un financement qui est un peu entre les lignes et qui est un peu moins clair, je trouve, en termes de restructuration financière que ce qu'on aurait pu espérer par une simple augmentation de capital.
Et après avoir pris quasiment 10% hier, la valeur c'est 3%, beaucoup de spéculation, hein, beaucoup de rachats de short et de produits dérivés qui sont positionnés sur ce titre Alstom. Il nous reste un peu moins de 3 minutes, messieurs, pour mettre en avant des pépites, des valeurs préférées dans ce contexte de plus haut historique. Quelles sont les valeurs que vous avez envie de mettre en avant ce soir, Quentin Warreau?
Alors nous, on aime bien en ce moment une valeur qui s'appelle AAK. C'est une valeur suédoise. Alors c'est vrai qu'elle est à son plus haut en termes de cours de bourse. Par contre, en termes de valorisation, elle reste à des niveaux qui sont particulièrement attractifs puisque le cours de bourse a en fait suivi une très belle progression des résultats. C'est une société qui fait du raffinage d'huile et de graisse végétale à destination notamment de l'industrie agroalimentaire. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est que vous avez sûrement vu que les prix du cacao sont au plus haut. Et AAK, avec ses produits et ses huiles alimentaires, vient pour l'industrie du chocolat en alternative au cacao et au beurre de cacao, qui est donc à des prix extrêmement élevés. Et donc, les sociétés agroalimentaires vont peut-être choisir les solutions de AAK pour reformuler leurs produits. Donc, effectivement, on a un marché qui devrait être particulièrement intéressant pour AAK, qui régulièrement, de toute façon, trouve des nouvelles solutions pour améliorer la qualité nutritionnelle des produits de leurs clients et qui délivre régulièrement une croissance de ses profits de 10% ou plus.
Aurélien Auton, une idée de valeur pour nos auditeurs téléspectateurs ?
Oui, moi j'avais envie de mettre en avant Vinci. Qui est un titre qui est à l'équilibre en termes de performance boursière depuis le début de l'année. Moi, j'ai l'impression que le marché sous-estime le changement de profil du groupe. Il y a encore quelques temps, c'était un groupe qui était principalement axé sur les concessions autoroutières. Et là, on a une diversification qui est beaucoup plus importante puisque on est à 25% sur les aéroports, à 25% sur les autoroutes et à 25% sur les énergies. Donc en termes de valeur d'entreprise, un profil qui est beaucoup plus diversifié. Vinci en plus a annoncé il y a quelques semaines un certain nombre d'acquisitions, notamment dans les aéroports. On l'a vu en Écosse, avec toujours l'idée de maintenir une durée moyenne plus longue de son portefeuille de concessions, puisque les concessions autoroutières françaises vont arriver à échéance entre 2032 et 2036. C'est un titre qui a beaucoup souffert au premier trimestre. Alors il y a des raisons, hein, le mouvement des agriculteurs, qui a impacté le trafic autoroutier. Il y a la remontée des taux aussi qui a pesé. Et puis il y a la volonté du gouvernement français de taxer les concessions. Mais pour moi, ça met de côté les qualités du groupe, puisqu'on a quand même des métiers qui sont relativement prédictibles. Et la valorisation ne reflète pas ces qualités, puisque le titre se paye 13 fois les résultats attendus l'année prochaine et qu'il va générer en trésorerie 9% de sa capitalisation boursière. Pour moi, c'est clairement une opportunité d'achat.
Et ce titre qui gagne plus d'1% ce soir, Vinci, au-delà des 115 euros. Merci beaucoup Aurélien Auton de nous avoir accompagné aujourd'hui dans BFM Bourse, gérant de portefeuille chez Swiss Life Banque Privée. Merci également à Quentin Ouarot, gérant chez Eleva Capital. Et donc votre pépite, elle n'est pas à Paris, elle est à Stockholm, AAK, avec une valeur qui gagne plus de 2% ce soir à la clôture. On est dans le segment des valeurs à la porte des valeurs moyennes, hein, 7 milliards de valorisation boursière pour AAK à Stockholm. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. C'est la fin de BFM Bourse. Très courte pause. Dans un instant, c'est Good Evening Business avec Guillaume Paul, avec Audrey Tcherkov. Et puis on se retrouve dès demain à partir de 15h30 pour l'ouverture de Wall Street jusqu'à 18h. Très bonne soirée.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.